C'est l'été sur France Musique.
Je disais que les glissando étaient l'apanage des violoncellistes, entre autres. Eh bien, on en a une avec nous ce matin sur France Musique. Emmanuel Bertrand, bonjour.
Bonjour Clément.
Vous écoutiez avec attention les frères Jacques, vous connaissez ça? Vous avez écouté quand vous étiez petite?
Oui, absolument. Alors, vous m'avez dit que les frères Jacques s'étaient arrêtés en 1982. J'avais pas vraiment ces repères précis. Mais en tout cas, je me souviens toute mon enfance d'avoir entendu leurs chansons, de les avoir vues à la télévision. Puis il y a quand même une très célèbre chanson qui est dédiée au violoncelliste.
La violoncelliste. Voilà, très, chanson très amusante, très coquine aussi, d'une certaine absolument. Manière. Qu'on a écouté, d'ailleurs, c'était en début de saison quand on avait reçu une toute jeune violoncelliste, Irène Jolis. La violoncelliste Emmanuel Bertrand est avec nous. Ce matin, vous allez nous parler d'un disque qui vient de sortir tout juste sous le label Harmonia Mundi avec votre mari Pascal Amoyel au piano, un disque de sonates et de leaders, de chants d'amour de Johannes Brahms. Alors cet album, c'est avant tout un anniversaire, hein, 20 ans que vous partagez la scène et la vie du pianiste Pascal Amoyel. Dites-moi, en 20 ans, vous avez tout joué du répertoire violoncelle piano existant sur la planète?
Alors, heureusement pas, parce que nous aimons bien les découvertes et qu'il y en aura encore une multitude, je pense. Mais c'est vrai que pour ce disque, nous sommes revenus à nos premières amours, parce que la sonate en mi mineur, c'est la première œuvre que nous avons déchiffrée ensemble. Nous nous sommes rencontrés à l'Après, au domaine de l'Après, lors du festival, et nous étions invités séparément. Et puis ça a été une sorte de coup de foudre artistique. On s'est dit, il faut absolument qu'on déchiffre, qu'on joue de la musique, qu'on commence à travailler ensemble. Et la seule partition que nous avons trouvée, parce qu'évidemment nous n'en avions pas avec nous, c'était la sonate en mi mineur. Nous avons joué les premières mesures, je me souviens très bien, on s'est arrêté après quelques lignes et on s'est regardé, et là je pense qu'on a compris qu'il se passait quelque chose de très fort et que on allait sans doute jouer longtemps ensemble. Voilà, ça fait 20 ans et c'est toujours une aventure renouvelée et un bonheur quotidien.
On peut dire que c'est Brahms qui a scellé votre amour, Emmanuel Bertrand. Brahms, grâce à qui vous fêtez donc vos noces de porcelaine, je suis allé vérifier. Ah. Voilà, 20 ans de mariage, en tout cas c'est les noces de porcelaine. C'est quoi le secret d'une telle longévité comme ça dans un couple de musiciens? Parce qu'en plus d'être ensemble, vous travaillez ensemble, vous êtes tout le temps ensemble finalement, vous n'êtes pas encore entretués.
Alors on fait aussi beaucoup de choses séparément, je pense.
Ah,
que
c'est ça le secret.
Peut-être, mais je pense que le fait de se retrouver et de pouvoir, parce qu'on partage aussi ce qu'on fait séparément, bien sûr. Pascal avec ses spectacles, avec le répertoire solo aussi, mais c'est vrai qu'on n'est jamais très loin l'un de l'autre et que le fait de jouer ensemble et de se retrouver, de voyager ensemble, c'est là qu'on discute de tous nos projets aussi, et ça reste quelque chose qui participe au socle, vraiment. Et donc c'est vrai que chez nous, il n'y a pas beaucoup de frontières entre le travail et le privé, mais au fond, est-ce qu'on peut considérer que la musique est un travail? Elle est toute notre vie, elle est là sans cesse. Donc.
D'ailleurs, j'allais vous demander, Emmanuel Bertrand, est-ce que vraiment vous avez encore besoin de travailler? Parce que après 20 ans de duo, on n'a plus besoin de se parler, tout se fait de manière automatique, non?
Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas besoin de se dire, effectivement, parce qu'on respire ensemble, parce qu'on se comprend avec juste un petit mouvement de sourcil. Voilà, mais malgré tout, sur tout le nouveau répertoire. Puis on se rend bien compte aussi que les œuvres avec lesquelles on vit depuis longtemps, on évolue avec elles et il y a toujours un plaisir particulier à rechercher quelque chose de nouveau. Je pense que cette sonate, évidemment, on la joue très différemment de ce qu'on a fait durant les premières années. Et c'est tout ce qu'on mesure en tant que musicien à reprendre certaines œuvres et évidemment les chefs-d'œuvre tout au long de la vie. On sait bien que beaucoup d'artistes ont enregistré, par exemple, plusieurs fois certaines intégrales et qu'on y découvre quelque chose de différent. Et le fait de partager ça aussi, que ce soit un sujet de recherche à deux, c'est vraiment passionnant, c'est très enrichissant.
Emmanuel Bertrand, vous êtes venu nous parler d'amour ce matin sur France Musique. En voici de l'amour à l'état brut.
Thank you.
là là, battez-moi la coulpe pour interrompre cette musique. Je sais, on voudrait l'écouter en entier, Manuel Bertrand, mais ça dure un quart d'heure quand même, hein, ce premier mouvement.
Oui.
C'était le début de la première sonate pour violoncelle en mi mineur, l'opus 38 de Johannes Brahms, avec vous, Emmanuel Bertrand, Pascal Amoyal au piano. Cet extrait de ce tout nouvel album qui vient de sortir chez Harmonia Mundi. Alors sur le disque, il y a les deux sonates pour violoncelle de Brahms, et puis au milieu, entre les deux, vous avez intercalé des transcriptions de Lieder de Brahms. Pourquoi ce choix-là ?
Alors, il se trouve que ces transcriptions, elles ont été éditées par l'éditeur de Brahms à la fin de la vie de Brahms, c'est-à-dire qu'il en a nécessairement eu connaissance. Alors, ce sont des Lieder qui sont pris dans des cycles tout au long de la vie de Brahms, et que nous n'aurions peut-être pas eu l'audace d'associer sans cette forme d'aval, mais là, ça a été, voilà, Brahms en a forcément eu connaissance, et la forme un cycle qui semble absolument idéal pour le violoncelle. On y retrouve notamment la berceuse, mais enfin, une collection de six Lieder qui chantent magnifiquement. Je trouve que le violoncelle, souvent, moi j'ai toujours plaisir à transcrire de ce qui est écrit pour la voix, et là il y a une telle osmose entre le piano et la voix. Alors bien sûr, nous n'avons pas le texte, mais en même temps on connaît les sujets, et c'est ce sujet de l'amour vers l'enfant, de l'amour vers voilà, l'être aimé, la passion, le deuil, toutes ces dimensions-là qui sont exprimées avec la finesse qu'on connaît à Brahms.
Alors transcription et puis transposition peut-être, parce que le Lieder d'origine était écrit pour des voix aiguës.
Oui, alors pas toujours, mais ce sont des Lieder qu'on entend de toute manière dans différentes tonalités.
Ouais.
Mais la partition telle qu'elle se présente aujourd'hui est celle qui a été éditée du vivant de Brahms.
Donc ça veut dire qu'on sait que, de toute façon, on sait qu'à l'époque, dans les familles, on arrangeait beaucoup de choses, hein, pour jouer à la maison, tout simplement, même des opéras, des symphonies, des airs d'opéra. Comment est-ce qu'il écrit Brahms pour le violoncelle ? On sait que c'est avant tout un grand pianiste. Est-ce que c'est très naturel pour le violoncelliste, la musique de Brahms ?
Je crois que c'est une évidence, en fait.
Ouais.
Il sait faire chanter l'instrument, il n'y a jamais de maladresse. Il y a une écriture parfois assez pianistique, hein. Je pense au final de la sonate en mi mineur, par exemple, cette référence à Bach avec la fugue, le côté très marcato. Mais je pense qu'il y a une réelle osmose entre les deux instruments qui font qu'on oublie parfois qu'il y a deux instruments aussi. C'est-à-dire que le violoncelle chante le piano chante le violoncelle, et finalement on a une multitude de combinaisons possibles qui nous font très rapidement basculer dans autre chose que la dimension instrumentale.
Et puis on a l'impression qu'il utilise vraiment toute la tessiture, hein, du violoncelle, Brahms. Il s'amuse à la fois avec le grave, avec les très aigus. Hein.
C'est très juste, parce que je pense que même le fait de contraindre l'ambitus, on l'a entendu là dans le premier thème, il aime aller du subgrave à l'aigu, et c'est ce qui donne cette tension extrême. Voilà, donc oui, ça, je crois qu'on explore l'instrument avec toutes les possibilités, et même il les a sans doute repoussées à l'époque de l'écriture de ces œuvres-là.
Est-ce que quand vous travaillez les Lieder de Brahms en transcription, est-ce que vous essayez justement d'imiter au plus près la voix humaine ?
Non. Non. Ce qui est la source pour nous, c'est vraiment c'est de partir du texte, mais avec cette conscience que le texte n'est pas une finalité, mais simplement un passage pour revenir vers la pensée musicale de l'auteur, qui est bien plus vaste. Je me dis souvent que ça doit être un déchirement pour le compositeur que de choisir un signe, un moyen d'exprimer quelque chose, parce que c'est forcément une réduction. Et donc, de prendre un modèle qui serait déjà une forme d'interprétation, donc forcément une forme de réduction de ce qui a été pensé à l'origine, c'est se priver, s'amputer d'une grande part de l'imaginaire. Donc le but, c'est de revenir au contraire vers la forme la plus grande et d'essayer de trouver la liberté par rapport à ça.
Allez, on essaie de trouver la liberté ensemble. On va écouter un de ces six chants d'amour transcrits pour violoncelle et piano qui sont sur votre disque, Emmanuel Bertrand, Pascal Amoyal. Alors j'ai un allemand épouvantable, je vais quand même essayer de me lancer. Wie Melodien sieht es mir leise durch der Sinn. Ça veut dire comme des mélodies, cela m'entraîne doucement dans mon esprit. Thank you. Je me demande si c'est pas presque mieux sans la voix et sans les paroles. Et Emmanuel Bertrand, c'était Vie mélodienne, un des 6 chants d'amour de Brahms, transcrit pour violoncelle et piano. Ces 6 chants d'amour qui viennent faire la jonction entre les 2 sonates pour violoncelle de Brahms. 2 sonates qui ont 20 ans d'écart. Mm-hmm. Qu'est-ce qui change vraiment dans le vocabulaire de Brahms entre la première et la deuxième pour vous, Emmanuel?
Alors, comment savoir si c'est lié au temps, à ces 20 années? Mais je dirais que la forme de la seconde est beaucoup plus étendue. Voilà, il y a aussi une grande différence. Il y a ce mouvement lent qui est un sommet dans la sonate en fa, alors qu'il n'y a pas de mouvement lent dans la sonate en mi mineur. Mais c'est vrai que le premier mouvement, qui est un allegro moderato, fait presque office en même temps de premier mouvement et de mouvement lent. Mais voilà, ce mouvement avec les pids dans la deuxième sonate, et puis ce thème complètement où le temps s'arrête, ça reste aussi un sommet. Mais je dirais que, surtout, on est heureux qu'il y ait 2 sonates,
oui.
Parce qu'elles sont effectivement très différentes. Et j'ai pas nécessairement le sentiment que ce soit lié à une question d'âge ou de maturité, parce que la première sonate est d'une maturité extrême déjà. Enfin, il y a cette profondeur.
Parfois, j'ai l'impression que la première, elle est plus fougueuse, plus romantique, je sais pas comment dire, que la seconde. Enfin bon, c'est bon,
oui.
C'est une impression que j'ai. Hein. En tout cas, on dit toujours sonate pour violoncelle de Brahms, c'est sonate pour violoncelle et piano. Quoi, hein.
Oui.
Il faut pas oublier Pascal Amoyel, parce que c'est pas un accompagnateur hein, quand même dans la musique de Brahms, le piano. C'est pas un simple accompagnateur.
Et puis, alors vraiment, ça c'est quelque chose de tellement essentiel. Moi, je n'ai jamais conçu un répertoire de sonates comme étant principalement pour violoncelle. D'ailleurs, un certain nombre de sonates sont présentées, au contraire, comme étant écrites pour piano et violoncelle. Rachmaninov, par exemple. Mais le piano, c'est essentiel. Enfin, le violoncelle est un instrument monodique, donc on rajoute juste une couleur sur l'harmonie. Mais c'est absolument indissociable, et c'est ce qui est tellement passionnant. Moi, au moment où j'ai rencontré Pascal, j'étais avec cette forme de quête d'idéal où je sortais d'une expérience de quatuor à cordes très intense qui s'était arrêtée. Et c'était vraiment, c'était pour moi un renoncement. Et j'avais cette idée, cette envie, ce désir ardent de pratiquer la sonate avec la même exigence que je l'avais fait pour le quatuor. Et c'est devenu possible grâce à cette rencontre avec Pascal. Et je pense que, effectivement, on peut pas considérer que ce sont seulement 2 instruments solistes qui sont associés l'un à l'autre. Il y a un travail de musique de chambre qui est un travail de fourmi, de créer une mosaïque de sonorités, de se fondre dans le son de l'autre. C'est infini, c'est merveilleux, et ça n'est en aucun cas de l'accompagnement, effectivement.
Oui. On est très heureux, en tout cas, de vous entendre dans Brahms, de vous avoir entendu il y a quelques mois dans la musique de Bach. On était un peu habitués, toutes ces années, à vous voir défendre des œuvres, on va dire, des compositeurs un peu moins connus. Et puis là, depuis quelques temps, vous revenez au grand classique. Alors là, c'est quoi pour le coup? C'est une question de maturité pour vous? Vous attendiez le moment opportun d'enregistrer ces grands monstres sacrés?
Alors, j'avais pas le sentiment d'être en attente, mais je pense que ça s'impose aujourd'hui parce que je reviens à ces œuvres avec peut-être une conscience plus claire de bien qu'ayant entendu tellement de versions, grandi avec, mûri avec des versions historiques, comment j'en fais un bagage culturel, mais que ça n'entrave plus ce que j'ai vraiment envie d'exprimer. Et ça, je pense qu'il m'a fallu un petit peu de temps, effectivement, pour me décharger, entre guillemets, de tout ce que j'avais rencontré, acquis, entendu durant toutes ces années. Et aujourd'hui, je reviens au grand répertoire. Le fait de jouer des œuvres inédites, moins connues, me permettait une rencontre avec moi-même, avec ce que je ressens vraiment dans la musique. Et c'était peut-être plus compliqué avec le grand répertoire dont on est avec cette musique-là. Et aujourd'hui, j'ai la sensation, je sais pas si on peut pas vérifier ça, mais d'avoir la capacité d'aller vraiment, de laisser l'œuvre me traverser et d'y avoir une démarche presque de création, en fait. Voilà, au même titre que la musique d'aujourd'hui.
Bon, finalement, Brahms avait bien lui-même attendu très longtemps avant d'écrire sa première symphonie, hein, dans l'ombre de Beethoven. En tout cas, on va dire un petit mot avant de se quitter, Emmanuel Bertrand, et avant de réécouter un deuxième extrait de ce très beau disque. Un petit mot rapide sur les concerts à venir, les dates. Il y en a pas mal, hein,
oui,
en duo et puis chacun de votre côté avec Pascal.
Alors Pascal jouera son spectacle Looking for Beethoven ce soir aux Grandes Heures Musicales de Cluny. Pour ma part, je serai demain dans un récital Bach au Festival des Abbayes de Lorraine. Et puis ensuite, nous nous retrouvons, et Pascal y sera déjà demain, au Folle Note de Beauzac. Alors ça, c'est un projet très particulier qui nous tient vraiment à cœur, parce que c'est ma sœur, Florence Badol-Bertrand, grande musicologue, qui nous a quittés prématurément en décembre dernier. C'était la grande spécialiste de Mozart, oboïste. Et Florence s'est installée à Beauzac, qui est en fait notre village d'attache depuis 3 générations en Haute-Loire. Et elle y a initié de grands projets artistiques, et notamment la création d'un centre culturel. Donc c'est ce festival qui a lieu pendant 3 jours à Beauzac, en hommage à Florence, qui est dirigé par son fils Pierre Badol, qui est un merveilleux musicien, corniste. Et puis ensuite, eh bien, nous reprendrons de nouveau la route pour la musique en écrin, le festival de Guil-Durance et les musicales du Haut-Anjou.
Voilà, plein de dates. Est-ce qu'on peut les retrouver, tiens, quelque part, toutes ces dates?
Tout à fait, vous pouvez les retrouver
internet
sur nos sites respectifs, Pascal Amoyel, Emmanuel Bertrand, voilà, les dates de chacun et nos dates de duo, puisque effectivement, nous allons nous promener avec bonheur pendant quelques mois avec ce programme Brahms.
Et créer encore de beaux spectacles, on l'espère, et de beaux disques, on peut se procurer en attendant ce disque Brahms qui vient de sortir sous le label Harmonia Mundi. Merci beaucoup Emmanuel Bertrand d'être venu nous voir ce matin sur France Musique.
Un grand merci Clément.
le final baigné de lumière de la deuxième sonate pour violoncelle et piano, on va le dire, opus 99 en fa majeur de Johannes Brahms. C'était Emmanuel Bertrand au violoncelle, Pascal Amoyel au piano, et cet extrait de leur tout dernier disque consacré aux sonates de Brahms, avec aussi quelques beaux chants d'amour.